Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs, auditrices, qui êtes de l'autre côté du poste. Ça fait vraiment ancien. Et bien, ce soir.
Ton poste à galène.
C'est ça. Et bien, on se retrouve après une petite semaine de. Ouais, c'est ça. Après une petite semaine d'absence. Je regardais mes notes comme si je me souvenais que j'étais pas là. Enfin, bon, bref. Donc, ce soir, dans les studios, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Nous avons Fab également.
Bonsoir, Jean-Yves.
Et bonsoir. Et donc, toute l'équipe est réunie pour la 500e causerie. Alors, vous attendez pas un programme de fou, hein, on va faire comme d'hab, mais voilà, c'est quand même important, 500 pour nous en tout cas. Ça fait plus de 10 ans donc maintenant, et donc voilà, on espère peut-être encore autant. Je ne sais pas.
Mais oui, on verra.
Je suis optimiste aujourd'hui. Je vais dire, je suis pessimiste aujourd'hui. Pardon. Ce soir, c'est Fab qui va ouvrir cette émission. Et ben, justement, en causant radio.
Et ben, on va parler de radio et de Radio Gaga. De vrai, ouais, parce que ça m'a fait rire de reprendre un titre d'un vieux titre de Queen. Alors, ouais, comme tu le disais, on est là, hein, mine de rien, c'est aujourd'hui notre 500e causerie. Ouais. C'est quand même pas rien. 500 numéros, c'est plus de 500 heures de direct ou d'enregistrement. Et c'est donc plus de 3000 heures de préparation. Bah ouais, parce que, en fait, amis auditrices, auditeurs, vous le savez pas, mais il faut compter au moins 6 heures de préparation pour venir dire toutes ces bêtises au micro, ou ouais. Pas que bêtises d'ailleurs, au micro le dimanche soir. Soit, en tout, 146 jours de notre vie. Voilà. Pas mal, une fois. Hein, c'est
ça
fou.
Fait combien en secondes?
Alors, je pourrais le faire, mais je ne l'ai pas calculé. En fait, c'est quand même fou quand on commence à calculer comme ça, à quel point on voit que cette passion est dévorante pour la radio, parce qu'elle prend quand même beaucoup de temps sur nos vies. Mais c'est une passion qu'on prend plaisir à faire, hein, bien entendu. Sinon, ben, comme on est bénévole, on serait déjà parti, hein, parce qu'on n'est pas obligé. Alors, on peut parfois se demander pourquoi on fait une émission de radio, et surtout si la radio a encore un sens aujourd'hui. Parce que voilà. Eh bien, les dernières mesures en France, je vais arriver à ça, prises par le groupe Médiamétrie ou par des sociologues, parce qu'il y a aussi des sociologues qui travaillent sur les outils que sont les différents canaux de diffusion, et notamment la radio, bah, ça peut que nous conforter dans l'idée que oui, définitivement, bah, une émission de radio, c'est utile. Alors, bah, on va le rappeler, la radio, c'est toujours le média numéro 1. Number one. Même si depuis 15 ans, le nombre d'auditeurs et d'auditrices global de la radio est en recul, c'est dans des proportions moindres que les autres médias. Là où, par exemple, la télévision a perdu un tiers de son audimat, ce qui est quand même assez énorme, bah, la radio, elle n'a perdu que 10% d'auditeurs environ en 15 ans. Alors, c'est pas négligeable, mais c'est beaucoup moins qu'un tiers.
Voilà. Ouais, c'est marrant quand même qu'un des plus vieux médias. Medium,
ouais.
Finalement résiste en fait. Non, mais
ouais.
C'est marrant parce que, enfin, je sais pas si t'en parles, je crois pas,
non,
mais enfin, quand la télé est arrivée, on disait que ce serait la fin de
du
la
cinéma,
radio,
par exemple,
cinéma,
de la radio,
ou,
du cinéma. Ouais, ouais.
C'est marrant de se rendre compte que longtemps après, c'est quand même encore là, quoi.
Bah, ce qui explique cette différence, c'est par exemple que la télé, elle a pu facilement être remplacée par les réseaux sociaux et leurs vidéos. Alors que la radio, bah, ça reste la radio, ouais. Et qu'on n'a pas encore de choses qui remplacent totalement cet outil qu'est la radio. Et la radio reste du coup en France le premier média en termes d'audience, loin devant les autres. Alors la radio est au-dessus de la presse écrite par exemple, elle est aussi au-dessus de la télévision, elle est au-dessus du cinéma, mais ça on s'en doute un peu, et elle reste largement au-dessus des réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que c'est le premier média de France, c'est la radio. C'est bizarre quand même, parce que comme tu disais, c'est un vieil outil. Tout le monde se dit depuis des années la radio est morte, on l'a entendu plein de fois, et puis finalement la radio, elle va bien.
Ça demande moins de moyens finalement.
Je vais en parler un petit peu justement de ça. Et ça. D'ailleurs, chez les 13-24 ans, un tiers seulement regarde la télévision tous les jours, alors qu'ils sont 50% à écouter la radio tous les jours. Okay. Donc il y a plus de 13-24 ans qui écoutent la radio tous les jours que de 13-24 ans qui regardent la télévision. Donc c'est plutôt intéressant. Chez l'ensemble de l'audimat, chez donc toutes les tranches d'âge, le lieu où on écoute le plus la radio, c'est les transports. Voiture en premier lieu, mais aussi, et là c'est ce que des sociologues ont découvert et qu'ils ont un peu surpris, aussi dans le train, en vélo, à pied, on a la radio dans les oreilles. Voilà, c'est, on n'a pas forcément les trucs de streaming de musique, on a la radio. Voilà. Et eux, ils le disaient dans leur étude, que pour eux, les gens écoutaient plus genre Deezer ou machin. Alors, il faut que j'en dise d'autres, Deezer, Spotify, blablabla. Mais en fait, en réalité, ils ont découvert que oui, les gens passent par ces plateformes, mais souvent pour écouter une radio.
C'est marrant.
Donc c'est drôle, parce que voilà, ça les a surpris dans les réponses. Et au domicile, y a trois lieux en particulier où on écoute la radio beaucoup. C'est dans la salle de bain, dans la cuisine, et dans la chambre. Voilà.
Ouais, j'en ai au moins deux sur les trois.
Donc là, si ça se trouve, vu l'heure, y a des gens qui nous écoutent dans leur chambre. Donc, relevez un peu la couette, il fait frais. Voilà. On note aussi qu'il y a des différences en fonction des zones géographiques. Plus une ville est dense, et moins on y écoute la radio. Voilà. Donc, on écoute moins la radio à Paris que dans les petits villages. Voilà.
Est-ce qu'il y a une explication à ça?
Par exemple, je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple. Dans les Pays de la Loire, la moyenne d'écoute, c'est 2h41 par jour pour la radio, ce qui est assez élevé, alors que c'est 1h15 à Paris. Et en fait, ce qui explique ça, c'est tout simplement en fait la proximité avec d'autres lieux culturels.
Oui, c'est ça.
C'est qu'en fait, on va au cinéma,
t'as beaucoup plus d'offres culturelles dans des grandes métropoles.
Ouais, on boit en terrasse avec ses amis. Ouais. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas, Et donc, par exemple, dans l'étude que j'ai lue, dans les Pays de la Loire, il y a aussi la notion de proximité, parce que c'est sur les radios locales que vous allez avoir, par exemple, les avis de tempête, où c'est qu'il faut se planquer, quand est-ce que vous pouvez sortir avec le bateau ou aller pêcher, et qu'en fait, c'est plus facile d'avoir ça via la radio que même via son smartphone. C'est-à-dire que les gens préfèrent se dire « j'écoute la météo marine ». Oui, c'est le truc, Et d'ailleurs, là aussi, les sociologues qui ont étudié ça disaient qu'ils ont été étonnés que même chez les plus jeunes, c'est ce qu'ils soulignent dans leur papier, en fait, la météo marine, par exemple, dans les Pays de la Loire ou en Bretagne, c'est le moment incontournable de la journée. C'est-à-dire que les gens allument la radio sur une des cinq stations qui donnent, il y a plusieurs stations privées et publiques qui donnent la météo marine, parce que, c'est un peu un rituel de savoir si, oui ou non, il y aura du vent, une tempête, tout machin. Et quand on habite en bord de côte, ça se comprend facilement.
Ça peut aider quand même.
Tout à fait.
Il y a des infos plus importantes et plus locales, effectivement.
Qui sont données par la radio.
Et qui ne seront pas, effectivement, au JT de la télé nationale, par exemple.
Clairement pas. Mais par contre, ce qui est surprise, c'est qu'ils ne se servent pas de leur smartphone et d'une application météo, par exemple. Ils vont plutôt préférer avoir le décryptage radiophonique. Donc si en moyenne, sur la population générale, il y a plus de 60% des gens qui écoutent la radio tous les jours, ce qui est quand même assez énorme, plus d'une personne sur deux, on découvre qu'entre 35 et 59 ans, c'est 80% des gens qui écoutent la radio tous les jours. Donc c'est un média qui reste encore fortement plébiscité, mais c'est plutôt une bonne chose. Et puis la radio, elle se transforme aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices qui sont adeptes des podcasts. La radio à la demande, entre guillemets, voilà, c'est un peu l'idée. Et 40% des personnes interrogées écoutent la radio via leur smartphone et les applications dédiées. Donc c'est vraiment devenu, c'est plus le poste.
C'est plus le poste à galène.
Maintenant on passe sur le smartphone. Et pour tout vous dire, on sait que la causerie, nous par exemple, on est sans doute écouté plus souvent en podcast qu'on ne le pense nous-mêmes. Parce que on est le dimanche à 22h et que c'est pas forcément l'heure la plus pratique pour tout le monde. Mais que y a sûrement des gens qui sont abonnés à notre flux de podcast ou qui viennent nous chercher le lendemain ou je ne sais quand.
Oui, et que après je pense que c'est aussi propre à certaines thématiques peut-être. Enfin je me dis, écouter la causerie. causerie en te couchant, je suis pas sûr que ça soit toujours le truc. C'est super, quoi. Je vais passer une super nuit. Donc, vaut mieux peut-être l'écouter quand tu es dans le train, tu vois.
Le matin.
L'éveil de la journée, quoi.
Mais un des faits les plus intéressants, c'est que chez les personnes qui écoutent la radio, 31% disent choisir en fonction du balayage des stations. C'est comme ça en fait que les sociologues ont appelé le truc ce qu'elles écoutent. Et Médiamétrie a fait la même mesure, et chez Médiamétrie c'est autour de 30% aussi, donc c'est à peu près pareil. Et c'est là en fait qu'on doit capter des gens qui nous auraient pas écoutés spontanément. C'est-à-dire qu'en fait, ben, y a des gens, ils allument la radio, puis ils balayent, et voilà, puis jusqu'à ce qu'ils tombent sur un truc qui les intéresse, et ils s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une station de radio préférée, un style de musique préféré, ou des choses, ou un talk-show préféré. Non, ils vont balayer, puis bon, ben là ils tombent sur la voix de quelqu'un ou sur ce que la personne en train de dire, ah tiens, ça m'intéresse, je vais écouter parce que ça a l'air intéressant ce qu'il raconte ou ce qu'elle raconte d'ailleurs. Et donc du coup ça veut dire que nous les gens qui faisons de la radio et tout Radio Canu, hein, voilà, et ben il faut qu'on arrive à capter des gens qui ne nous auraient pas écouté spontanément, qui tombent sur nous comme ça en rentrant de vacances par exemple, première fois qu'ils tombent sur Radio Canu et pas la dernière parce qu'après ils peuvent plus s'en passer.
Évidemment.
Donc c'est quand même une petite pression, hein, sur nos épaules. Il faut leur donner envie de rester. Oui, c'est pas simple là, quand même, l'idée, mais bon. Blague à part, ça souligne surtout la pertinence de l'outil radio, des podcasts, hein, parce que le podcast c'est pareil. Il y a les gens qui utilisent des podcasts. Alors, l'étude n'avait pas donné de pourcentage, mais ils disent qu'il y a une part assez importante de gens qui papillonnent dans les podcasts. C'est-à-dire ils vont piocher, puis ils vont tomber sur un truc qui leur plaît ou une émission qui leur plaît. Donc du coup ils vont écouter plusieurs épisodes de cette émission ou de ce podcast. Et en fait, c'est un peu pareil. Les gens papillonnent un peu plus que sur la radio, que sur la télévision, où j'ai regardé le parallèle, il n'y a que 7% des gens qui zappent pour trouver ce qu'ils regardent à la télévision. Okay. Voilà. Et ils savent, généralement on sait ce qu'on va regarder.
Ok, mais on se laisse on laisse à la curiosité le choix de
Que 7%
de la radio. Non, mais
la radio c'est plus grand, important. Voilà, donc du coup c'est pas le même type de média, le rapport est pas le même, et c'est plutôt intéressant en fait. Voilà, donc la radio ça reste toujours le premier média, et donc ça souligne la pertinence quand même de cet outil qui a encore toute sa place. Et en prime, donc du coup la part de hasard est encore plus forte, que l'on tombe sur nous, et ça c'est plutôt sympa. Voilà, je me suis dit, c'est marrant de se dire, ça se trouve, là, il y a quelqu'un qui nous écoute et il a juste allumé son autoradio et puis balayé, puis il est tombé sur un gars qui parle de radio. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est la quatrième dimension, la radio. Gars, enfin, on s'en sort plus, quoi.
Mais en fait, il faut pas oublier que la radio, c'est aussi un outil de lutte, parce que ça, on l'oublie, hein, même si on sait que depuis des années, des libéraux économiques et autres réactionnaires, ils rêvent de voir disparaître, hein, justement les radios associatives en France, surtout celles engagées, hein, comme Radio Canu et d'autres, hein. Et ben en fait on tient bon et finalement on s'en félicite, hein. Radio Canu a 47 ans l'année prochaine, donc c'est quand même assez énorme, et c'est un des outils quand même pour laisser la voix des sans voix, et c'est une excellente chose en fait. Ce canal là permet aussi, comme tu disais, comme il faut peu de moyens finalement pour faire de la radio, et c'est facile de récupérer ou de diffuser la voix.
Je parlais aussi surtout, c'est peu de moyens pour l'écouter, quoi.
Ouais, tout à fait. Pour l'écouter aussi, bien sûr. Pour en faire déjà.
Oui.
Parce que pour démystifier, en fait, vous pouvez faire de la radio assez facilement aujourd'hui. Et finalement, oui, pour l'écouter aussi, il faut un poste, un smartphone.
Oui, c'est ça, il faut quasiment rien, quoi. C'est beaucoup moins de moyens qu'une télé, des abonnements, etc., différents bouquets, machin.
Ouais, c'est clair, ouais.
Alors que la radio, tu tournes on et tu choisis.
Et on oublie d'ailleurs parfois, parce que justement, nous, on n'est pas confronté à ça, qu'ailleurs, face au régime dictatoriaux, autoritaires et autres, la radio c'est resté un outil de lutte très fort, et qui permet de passer des messages et d'organiser les contestations. En Iran, au Pakistan, en Chine, etc., il y a nombre de radios dites pirates, qui émettent en fait de la frontière ou même en intérieur du pays en bougeant, c'est-à-dire avec des émetteurs mobiles, et en fait qui se servent de la radio comme outil de contre-propagande, c'est-à-dire pour casser la propagande du régime ou des régimes autoritaires. Bien entendu, là aussi, elles sont adaptées aux réseaux sociaux et à Internet, hein, parce que tu as aussi des radios maintenant qui passent par des flux Telegram ou des choses comme ça, ou Signal, machin et tout. Mais quand même, le fait de capter les ondes, ça reste facile, parce qu'un petit un petit récepteur radio tout petit qui tient dans la poche, c'est vite fait ou assez facile de pouvoir l'emmener un peu partout. Voilà. Et puis ensuite, il faut pas oublier que c'est beaucoup plus simple pour un régime autoritaire de bloquer Internet que de brouiller les ondes radio. Eh oui. Donc du coup, les ondes radio, elles restent un outil garde sa pertinence dans les luttes. Et d'ailleurs, à une autre échelle, on se souvient qu'il y a des radios temporaires qui ont été mises en place sur les ZAD ou dans des lieux de lutte ces derniers temps, ou sur le TAV, tout ça et tout.
Oui, et puis vraiment plus loin, il y avait aussi les ouvriers de l'acier.
Radio Cœur d'Acier.
Oui, c'est ça.
Bien sûr, c'est une des premières radios pirates et autogérées de France, qui était Radio Cœur d'Acier, à l'initiative d'un syndicat qui était la CGT. Et du coup, on voit, oui, ça a toujours eu cette notion, en fait, de permettre de passer un discours qui n'est pas le discours officiel. Voilà, et c'est plutôt intéressant. Et de fait, hein, comme tu disais, comme ça nécessite pas de moyens forcément complexes, la radio garde sa place d'outil de lutte partout dans le monde. Et c'est un média, finalement, de masse, vraiment, parce que ça permet d'arroser facilement sur un périmètre assez long. Voilà, il y a des émetteurs aujourd'hui, entre guillemets, qui permettent de faire de la radio pirate, qui émettent sur 30 bornes, par exemple, 30 km, un cercle de 30 km autour de l'émetteur. Bah, c'est plutôt intéressant, hein. Si vous avez une grande ville qui est pas trop loin, vous pouvez espérer toucher du monde, quoi, voilà. Alors, faire de la radio, finalement, c'est quelque part, c'est passer des messages, parce que c'est un peu ça. Alors ça, c'est notre vision de la radio, hein, pour être très clair, hein. Parce que du coup, l'outil de la radio, elle est donc plus à démontrer en tant qu'outil de propagation des luttes, hein. Bien entendu, l'audience principale de la radio, c'est focalisée sur les gros médias. Radio France, le groupe Énergie, le groupe Lagardère, ça on le sait, on va pas se mentir.
Oui.
Hein, voilà.
Radio Libertaire, Radio Canu Radio Brogouenette qui sont les premières écoutées, quoi.
Ce qui est tout à fait dommage, parce que c'est quand même deux sur trois des bonnes radios. Mais... Et je ne dirais pas que Radio Libertaire est une bonne radio. Mais même les études, quand même, qui ont été faites par Médiamétrie, elles sont forcées de reconnaître que l'audience des radios associatives, y compris des radios engagées, elle est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que même si ces radios, généralement, ne payent pas pour avoir les chiffres, parce que c'est cher. Hein.
Oui, parce que ça, je te coupe vite fait, mais ça, je trouve que c'est important. Enfin, moi, je l'ai appris en étant à Radio Canu, en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand vous entendez, amis auditeurs, auditrices, quand on vous parle d'audience, etc., etc., les médias payent
pour avoir leur audience.
Et en fait, c'est à hauteur de, je crois,
c'est très cher, hein.
700 euros par mois, voire
ça, c'est
pour
une radio associative.
Alors,
j'imagine à peine Énergie ou Radio France ou un truc comme ça.
Et
quoi,
souvent, je sais que si je peux parler de radio de Radio Canu, par exemple, on va souvent me dire, ouais, mais vous êtes écouté comment? Et en fait,
nous, on paye pas.
Nous, on paye pas. Et en fait, faut se rappeler quelque chose quand même, je pense, qui est important, c'est tous ces grands médias qui payent Médiamétrie pour savoir comment ils sont écoutés et à quelle hauteur ils sont écoutés, c'est pour pouvoir vendre des espaces publicitaires.
C'est ça.
En fait, il ne faut pas l'oublier, la mesure de tout ça est quand même liée au prix, à combien ils vont pouvoir vendre la seconde ou les 10 ou 30 secondes de pub, etc. Et vu que Radio Canu et
bien d'autres... Ou de sponsoring, qu'il y a des radios, il n'y a pas de pub, mais il y a du sponsoring.
Et vu que Radio Canu fait partie de celles et ceux qui n'ont pas de pub et refusent la pub, en fait, on s'en fout, en fait.
Ouais.
Et tant mieux si vous nous écoutez, et si vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter, tant mieux. Mais on n'a pas d'argent à se faire sur ça.
Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que même ceux qui mesurent sont obligés de dire que c'est pas à la marge.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, dans les chiffres qui sont donnés, là, donc vous entendez tous parler sur toutes les autres radios qui vous disent on est numéro 1 de la matinale, on est numéro 2 de la matinale, tout ça, machin. En fait, si vous cumulez le nombre d'auditeurs, en réalité, il y a une marge assez importante, et cette marge assez importante, c'est les gens qui écoutent des radios qui ne sont pas des radios de grands groupes, qui vont être des radios soit communautaires, soit des radios engagées comme Radio Canu, soit des radios un peu plus spécifiques comme une radio de blues dédiée au blues qui ne fait que du blues, voilà, par exemple. Et en fait, ces personnes-là, elles ne sont pas négligeables dans la masse des auditeurs et des auditrices. Et c'est intéressant de voir que même donc le groupe Médiamétrie est obligé de le reconnaître, parce que pendant des années, en fait, il a laissé croire que nous, les petites radios, ne servions à rien.
Ouais.
Bah oui, parce que quand même, ils étaient payés par les grosses pour... Et là, ils sont quand même un petit peu obligés aujourd'hui de reconnaître que quand même, on existe, quoi. Hein, Et on va pas arrêter d'exister. Et en prime, la plupart des radios engagées ou non, d'ailleurs, mais plutôt des radios associatives, ont su se déployer sur le plus possible en plus des ondes. C'est-à-dire qu'il y a eu un réflexe de survie, très clairement, de dire, il faut qu'on puisse être trouvé. Donc, internet, podcast, blog, DAB+, etc., etc., tout ce qui en fait permettait de passer le son et de passer la parole, en fait, a été pris par toutes les radios associatives pour dire, il faut qu'on soit présent le plus possible partout. Parce que le souci qu'on a, nous, c'est que justement, on fait pas de pub. On n'est pas, vous savez, jamais au cinéma, tel film avec le soutien de Radio Canu. Bon, c'est assez rare quand même, hein.
Jamais, on peut
voilà.
Le dire, hein.
Vous entendez jamais, une publicité de la sortie du dernier album d'un artiste soutenu par Radio Canu, vous voyez, par exemple. En fait, tous ces trucs-là, c'est de la pub en réalité. Oui. Et les autres radios, elles peuvent faire ça. Donc, elles existent dans l'espace sans avoir besoin, finalement, de faire leur auto-promotion. Oui. Et nous, en fait, eh ben, on est obligé de faire la propagande pour Radio Canu. Donc, on a nos stickers, ça, machin, tout ce qu'il faut. Et puis, bah, le fait d'être partout permet aussi, à un moment donné, bah, de dire. Alors, je précise que Canu n'est pas sur le DAB+, parce que j'ai dit le DAB, mais je ferme la parenthèse. Mais en fait, tout ça pour dire que, bah, comme on est un peu partout, sur Internet, dans les blogs et tout, ça nous permet aussi bah, d'être toujours trouvable par ceux et celles qui papillonnent d'une station à l'autre. J'en reviens à mon truc du départ, ou d'un podcast à l'autre, parce que bah oui, on fait de la radio aussi pour être écouté, pas par ego, mais parce que quand même, on y passe du temps, et que le but, c'est quand même l'idée de dire, bah, espérons que ça serve un peu à quelque chose. Mmh. Et vous comprendrez sans doute mieux maintenant pourquoi à chaque avant début d'émission, mais maintenant fin d'émission. Oui, c'est le grand changement pour la 500e. Donc je le dis. Voilà, donc à chaque fin d'émission, maintenant, on va vous répéter toutes les coordonnées, podcasts et autres blogs de notre émission, parce qu'en fait, bah, on a besoin de vous, en fait.
Hein. Ah, mais parce que nous, on est. Voilà. Nous, alors, nous, à l'échelle de Causerie, mais nous, à l'échelle de Canu, je veux dire. Ouais. On existe. Que parce que vous êtes de l'autre côté du poste.
Et que parce que vous parlez de nous aussi.
Et que vous parlez de nous. Et que, je reprends l'exemple de la Causerie qui a reçu un mail d'un auditeur nous disant envoyez-nous des stickers. Mmh. Et ben, c'est pour ça qu'on vous le rappelle tout le temps. Mais vraiment, c'est vous qui soutenez indirectement, en tout cas, un média comme Radio Canu, quoi. Donc c'est vraiment, c'est aussi en ça qu'il y a un autre rapport, en fait, quoi. Oui. Dire que oui, c'est vous qui nous faites connaître, sinon c'est mort.
Et là, je vais le dire, pour moi, la radio, ça reste un outil unique, un moyen simple de passer des messages au plus grand nombre de personnes. Mais c'est aussi, pour moi, un endroit de l'intime. Parce que quelque part, on parle directement à l'oreille d'une personne. On vous parle directement dans l'oreille, à vous, auditrices et auditeurs. Et en fait, qui n'a que notre voix pour nous imaginer, pour nous donner un visage, entre guillemets. Et pour l'anecdote, lors d'une étude qui a été faite sur les voix de radio, ça a été fait par une université belge qui s'est posé la question de est-ce que finalement on peut imaginer quel est le physique d'une personne rien qu'à sa voix ? Voilà. Donc je précise que je fais 1m87. Donc bah, pas du tout.
Il aime porter ses poids. Il est sûrement suédois.
Ça doit être ça. Donc en fait, lorsqu'on présente 4 photos après 15 minutes d'écoute d'une voix radio et qu'on dit à la personne qui t'a entendu, dans 79% des cas, elle ne trouve pas le bon visage.
C'est marrant.
Voilà, c'est plutôt drôle. Et quand on descend à 2 photos, donc ça fait une chance sur 2 en théorie, et en fait, dans 60% des cas, la personne se trompe. Et c'est pourquoi ? Parce que la voix, c'est trompeur. C'est-à-dire que quand on a une voix, on imagine, et même avec une chance sur 2, et en fait, non, parce que quand même, on va se dire, ah, il a plutôt une voix de brun, lui, hein, non, ouais. Non, mais c'est bizarre, mais notre cerveau réagit comme ça, quoi. Ou, ah non, mais il doit avoir des épaules solides. Rêvez pas. Donc la voix, c'est trompeur. Alors ne rêvez pas, vous ne savez pas à quoi nous ressemblons, nous autres de la Causerie, sauf si on s'est déjà croisés. Voilà. Mais sinon, non, vous n'avez que nos voix pour nous imaginer. Et donc, moi, je vais vous le dire, on a commencé à l'aborder, mais d'auditeur à auditrice, on aimerait que vous soyez de passeur à passeuse d'émission. Sans démagogie, on sait que nous sommes écoutés, et c'est pour ça qu'on fait de la radio, parce que sinon, on ferait autre chose. Mais nous autres, radio associative, émission bénévole, on a besoin de vous, vraiment. Donc, si vous appréciez la Causerie, et si vous appréciez d'autres émissions de Radio Canu, d'ailleurs, si vous aimez ce qu'on fait, aidez-nous à nous faire connaître, parce que nous, on ne peut pas faire de pub. Donc voilà. Donc partagez l'horaire de l'émission, nos podcasts, nos blogs, etc. Et c'est là que la radio prend encore plus de sens, c'est dans le partage.
Oui.
Donc voilà.
Ouais, non, mais clairement. Mais alors, je me suis noté 2-3 petits trucs, mais il y a vraiment cet effet de proximité.
Ah oui, c'est-à-dire que alors, média de proximité.
Autant sur Lyon, c'est peut-être différent parce qu'on est sur un grand territoire, une métropole, etc. On manque pas de divers réseaux d'informations, etc. Mais vraiment, ouais, je vais parler de mon pays, la Bretagne. Pardon, très personnel.
Tu veux dire l'Alsace?
Non mais c'est, enfin, il y a des territoires comme ça ruraux, ont un tissu social et associatif et radiophonique. Je veux dire, j'ai pas fait le total, mais en Bretagne, vous bougez de quelques kilomètres, vous allez pouvoir choper une autre radio associative qui va parler.
C'est le cas aussi en Ardèche, c'est le cas en Alsace.
C'est en ça que je parle de ruralité, en fait. Et ils vont parler des lieux que l'auditeur, l'auditrice connaît. Il y a quelque chose de beaucoup plus proche, en fait, et qui sort quand même, parce que je veux dire, si on regarde au moins la télé et la radio, je pense quand même un petit peu, on a quand même une sorte de et je veux pas faire de démagogie ou je sais pas quoi, mais de parisianisme, en tout cas de quelque chose qui se passe au cœur d'une grande métropole qui va regarder le reste un peu comme la province, hein, vous voyez le truc, et ce qui fait que ça crée vraiment, je pense, une distance là où effectivement la radio, ben c'est là quoi, enfin tu traverses la rue, tu trouves une radio quoi, donc c'est
vrai, ouais.
Il y a vraiment ce rapport là, et je voulais aussi
avant que tu passes au deuxième truc, il y a quand même une chose, même dans le groupe Radio France d'ailleurs, ils sont en train de se faire engueuler parce qu'ils sont en train de tuer le réseau France Bleu.
France Bleu, ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, France Bleu, c'était la radio de proximité du groupe Radio France. Donc c'était des radios qui généralement émettaient sur un département en général. Et en fait, bah, le réseau France Bleu, bon, il est en train d'être remanié, machin, ils vont l'appeler ICI au lieu de France Bleu. Enfin, j'arrive avec le nom, je me dis, j'écoute ICI, c'est un peu étrange.
Oui, non, mais c'est, bref, c'est de la com, quoi.
Non, mais ça, c'est pas grave, c'est que de la com. Mais par contre, les auditeurs et les auditrices, moi j'ai lu hein, quand même sur là-dessus, bah, ils se plaignent parce qu'en fait ils disent par exemple, alors on aime beaucoup Willy Rovelli, mais ils le disent, hein, mais par contre Willy Rovelli il est partout. C'est-à-dire qu'il est diffusé sur tout France Bleu. Okay. Donc il y a de plus en plus d'émissions.
Il n'y a plus de connexion
avec le territoire. Voilà, qui sont des émissions en fait nationales diffusées. Et donc la grille de programme de ces radios qui sont censées être de proximité, elle se réduit de plus en plus. La proximité se réduit au profit en fait de programmes produits nationalement et diffusés sur l'ensemble des réseaux. Alors la raison elle est simple, hein, c'est que bah on veut pas payer des journalistes, on veut pas payer des animateurs locaux et que du coup comme ça bah on réduit les frais. Mais sauf que même cette mission de service public est en train de disparaître. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plein d'auditeurs de France Bleu qui se tournent de plus en plus vers leur radio associative locale, okay, qui elle continue en fait à avoir elle un ancrage purement local, parce que souvent c'est des bénévoles, parce que comme tu dis, ils vont parler du lieu, des lieux et tout, et puis que du coup ils essayent de construire des liens qu'ils avaient avant avec quelque chose qui était relié à cette grande maison qui est Radio France, mais avec des radios associatives locales. Et ça pour moi c'est très bon signe, parce que ça veut dire que ça garde une proximité et un plaisir que recherchaient les gens. Et que finalement, ça revient à ce que je disais, il y a toujours une pertinence dans l'outil radio, y compris dans le lien local et le partage.
Mais oui, et puis si on parle aussi même de langue, par exemple.
Ouais, bien sûr.
Enfin, il y a des radios locales et associatives qui vont parler la langue du territoire, en fait. Alors, pas forcément sur des programmes continus, mais
non,
qui vont avoir quelques émissions dans la langue du territoire. Je reprends l'exemple, mais ça marche pour la Bretagne, ça marche pour l'Alsace.
Qui avait des très bonnes radios Le Pays Basque, qui a des radios locales en basque.
C'est là aussi, on est vraiment dans quelque chose de ouais, c'est ça, tu parles avant d'intimité, il y a vraiment ça quoi. Et je voulais quand même juste rappeler, mais parce que ça m'est revenu, c'est qu'on avait quand même fait une émission en mai 2015 avec deux radios, une de Dreieckland en Allemagne,
ouais,
et une aussi de Nanto FM qui était au Bénin en fait. Et justement, on parlait à cette époque aussi justement de cette proximité là en fait. Et avec tous les messages aussi qu'on peut diffuser de sensibilisation, etc. Mais c'est vraiment un média, ouais, c'est ça, il est dans l'intime et il y a quelque chose de très très intéressant. Et cet effet-là, il est mondial. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on analyse.
Ah, bien sûr, non,
ici.
C'est partout.
C'est le médium.
Et je vais même aller rajouter quelque chose à ce que tu disais. C'est aussi sur les conflits, par exemple. Mm-hmm. Vous savez, ce qui se passe en ce moment, bon, il y a la guerre partout, on va pas se mentir. La paix recule et la guerre augmente, c'est terrible. On sait qu'il y a plein d'endroits où les conflits ont lieu. Et en fait, la radio, ça reste le média de la longueur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui viennent parler de ce qui se passe, des gens qui sont réfugiés, des gens qui sont même sur place. Des fois, on a des radio-reporters qui font des reportages sur place, mais en longueur. C'est-à-dire, moi j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un podcast qui a été fait par un journaliste Gazaoui et qui est juste hallucinant parce qu'il vous fait vivre en fait ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire avec les bombardements, les appels, machin et tout, mais il le fait avec un recul un peu journalistique, de dire je suis pas en train de dire prendre parti, même si bon, lui il prend parti en tant que Gazaoui, ce qu'on entend bien parfaitement, mais par contre il dit bah oui, mais c'est aussi un témoignage et il veut laisser cette espèce de trace et il dit j'espère, et il le dit dans le podcast, j'ai trouvé ça assez beau, il dit j'espère, parce qu'il aimait en fait cette émission de radio, elle est émise depuis Gaza en fait, avec il raconte il y a un petit émetteur, enfin il y a vraiment, enfin j'essaierai de le retrouver, de vous le mettre en lien, et en fait il dit à un moment donné j'espère que de l'autre côté, donc sous-entendu en Israël, ce sera entendu, parce qu'il dit c'est son but à lui, c'est de dire écoutez, Voilà, ouais. Entendez ce qui se passe,
écoutez les gens,
parce que justement il va interroger des gens dans la rue. Il n'interroge pas des militants du Hamas ou machin. Non, il interroge les gens qui croisent dans la rue, qui courent avec lui. Et franchement, on entend des gens qui sont dans une guerre et puis qui sont pas, voilà, qui ont juste envie de vivre.
Et ça
c'est aussi ça l'outil radio, c'est aussi ça qu'il y a derrière. Et je me rappelle aussi en Ukraine, il y avait des soldats ukrainiens, des jeunes engagés ukrainiens qui avaient fait un podcast et un outil radio pour raconter ce qui se passait au front, pour dire en fait nous on est une nation libre, donc on a le droit de dire ce qui se passe au front, contrairement à l'armée russe. Alors, il y a aussi une part de propagande derrière, faut pas se mentir.
Oui.
Mais ce qui était intéressant, c'était quand même de voir que cet outil qui peut-être au départ était un outil propagandaire, il a aussi servi quand il y a eu des exactions dans l'armée ukrainienne à dénoncer des gens qui avaient commis des exactions. Et ça, on se dit, c'est aussi un des outils, parce que une fois que c'est parti, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, je voulais parler ce soir et dire, peut-être un peu mon amour, notre amour de la radio, parce que ça reste un outil génial et on espère le voir vivre encore bien longtemps.
Ouais.
Voilà.
On passe à la ZIC.
Mais oui.
Allez.
Ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage en ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, des chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante.
es sur Radio Canu 102.2 ou sur radiocanu.org ou sur internet ou où que tu sois, eh bien tu viens d'écouter et d'entendre Les Étoiles Filantes des Cowboys Fringants. Et c'était ben quand même pour nous l'occasion de rendre hommage à Carl Tremblay. Carl, pour les intimes, enfin, surtout tout le monde l'appelait Carl, le chanteur des Cowboys Fringants, qui est mort à 47 ans après avoir lutté contre un cancer de la prostate pendant 3 ans et d'avoir chanté jusqu'au bout. Je vous invite à aller voir les images de son dernier grand concert devant 90 000 personnes en juillet 2023. Donc c'était à Montréal. Et voilà, et puis bah, c'était cette petite voix qu'il avait comme ça, qui nous chantait des chansons parfois drôles, parfois profondes, comme Les Étoiles Filantes. Et on se demande toujours à la fin, qu'est-ce qui va rester. Et ben peut-être un petit peu de ce que l'on construit chaque jour chacun et chacune, voilà. Mais voilà, c'était juste un hommage à Carl Tremblay. Et puis écoutez les Cowboys Fringants parce que c'est vachement bien. Donc voilà. Et toi, Jean-Yves, du coup, tu nous facilites pas la vie parce que tu veux nous parler de quelqu'un sans voix.
Ouais, c'est ça. Bah justement, Fab, tout à l'heure, hein, tu nous parlais de la radio comme d'un outil hein, pour laisser bah, la voix aux sans voix. Ce qui m'a fortement donné envie, c'est mieux, de vous parler bah, effectivement d'une sans voix. Donc sans voix, alors peut-être pas comme on peut l'entendre habituellement, encore que, mais simplement d'une autrice autiste diagnostiquée déficitaire à 80% non verbalisante. Babouillec, hein, c'est son nom, ou plutôt son pseudo d'autrice. Pour de vrai, elle se nomme Hélène Nicolas et elle a 38 ans. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Les oreilles, stand-by à la jacasserie humaine, les mains et les pieds sans dessus-dessous. Les yeux dans les yeux de moi-même. Modèle dispersé, gratuitement mis au monde par besoin de casser la mécanique culturelle. La tête comme un ressort sans verrou oscillant vers les quatre points cardinaux. J'ai raté la maternelle et toutes mes chances d'être une championne sur les bancs d'école. Pas d'apprentissage, juste être moi-même, être soi-même. Une terreur pour les repères sociaux. En 1999, j'ai quitté l'institution médico-sociale pour commencer l'apprentissage des règles sociales dans une culture plus ordinaire, ma famille. Très vite est apparue l'idée du « qui est-on » pour faire face à mon identité « out of line » et trouver comment brancher tous les morceaux. C'était en 2001. En 2006, à force de travailler sans relâche, mon corps a ouvert ses portes, a ouvert des portes sur votre monde. L'écriture est sortie de ma tête et donnait un sens à ma vie sociale et culturelle. Et en fait, moi, Babouillec, bah, je l'ai découvert via une émission télé. Oui, ouh, c'est pas bien la télé.
Mais ce que tu viens de dire, c'est...
C'est sa présentation d'elle-même, ou en tout cas, c'est des passages où elle va parler d'elle-même.
Ok.
Je la cite. Hein. Oui, j'avais envie de beaucoup la faire parler, ou en tout cas, transmettre ses mots.
C'est intéressant.
Parce que, oui, parce que voilà. Je vous le dirai après. Je l'ai découvert donc via une émission télé, que je vous conseille vivement d'ailleurs. Hein. C'est des rencontres du Papotin, qui est diffusé sur France 2 une fois par mois, ou un truc dans le genre, qui est en fait la prolongement de Le Papotin, journal atypique. C'est un journal uniquement fait par des personnes atteintes d'autisme.
Ouais, autisme et neuroatypique.
Oui, et neuroatypique, ouais. Effectivement. Alors, par son mode d'expression, hein, à savoir un petit paquet de carton sur lesquels sont écrites des lettres qu'elle aligne devant elle pour former des phrases, et elle est aidée par sa mère ou en tout cas une personne aidante. Elle avait posé dans cette émission justement une question tellement profonde, alors humainement, poétiquement, philosophiquement, que j'ai voulu creuser. D'ailleurs, hein, j'étais tombé sur un extrait d'un de ses livres qui m'avait ému aux larmes, et encore une fois, tant de profondeur, bah, je voulais absolument plonger dans son univers parce que c'est... Ouais.
Non mais termine tes phrases.
Si c'est
parce qu'on a vu l'émission ensemble, donc je peux le dire. Si c'est la question qui avait été posée à Virginie Efira.
Je crois bien que c'était ça.
Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est je le dis. Hein, c'est si j'avais été à la place de Virginie Efira, je sais pas comment j'aurais reçu la question et surtout comment j'aurais pu y répondre. Et elle fait une très belle réponse, elle aussi d'ailleurs. Mais elle dit, mais c'est d'une profondeur.
Oui.
Parce qu'en fait, en gros, c'est sur l'appartenance, l'être, être ou ne.
Enfin, et l'apparence.
Voilà, pourquoi on donne ces apparences-là et tout. Et c'est très très profond. C'est-à-dire, ça va très très loin. Et quand on est actrice, quand d'un seul coup on vous renvoie au visage, pourquoi t'es actrice en gros, mais en posant ça de façon très profonde.
Et Babouillec parlait aussi de théâtre social.
C'est ça, le théâtre social, le théâtre de la vie, le théâtre en tant que théâtre aussi. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé. Enfin, voilà, je te rejoins. C'est c'est hyper percutant. Ouais. Vraiment, quoi.
Et voilà donc hein, comment j'en arrive au livre dont je vous parle ce soir, à savoir Algorithme éponyme, qui est sorti aux éditions Payot Rivage dans la collection Poche en 2018. Et il avait été édité une première fois en fait par Christophe Chaumont, éditeur, en 2013. Et en fait, ben, je pense que ça devait être en forme de petit livret plus que d'un livre d'une plus d'une centaine de pages. Hein. Donc cette version poche, elle rassemble trois des textes de Babouillec. Algorithme éponyme, hein, raison et acte dans la douleur du silence, et enfin, jeu ou autopsie du vivant.
Un sacré sens des titres. Hein.
Ouais, ouais, et puis je trouve que déjà rien que les titres, je trouve qu'il y a une profondeur, quoi, enfin bref. En tout cas, peut-être qu'elle parle qu'à moi, mais je trouve qu'il y a une profondeur absolue. Et nous plongeons donc hein, dans la vie, le cerveau, les pensées de Babouillec. Alors si elle nous parle d'elle, évidemment, hein, elle pensera aussi son rapport à nous, au monde, de l'interaction ou non entre les réalités qui font monde, comment communiquer, comment sortir du mutisme pour dire, pour parler, pour partager. Et tout cela interroge évidemment aussi le rapport de notre monde, de nous, avec elle, avec les personnes qui peuvent lui ressembler, et nous-mêmes en fait à penser, à philosopher sur nous, notre vie, la vie au sens large. Notre rapport au monde, notre rapport aux multiples mondes, en fait, composés par nos semblables, évidemment aussi les normes et ce qu'elles entraînent, et la liberté aussi dans tout ça, finalement. Il y a aussi de ça, en fait. Je vais encore vous en citer un peu, parce que, voilà. Les limites te façonnent. L'enjeu systématique de l'appartenance sociale inhibe ta résonance au monde, à toi-même, à elle-même. Elle se met en miroir holistique de la révolution qu'elle traverse. Fantôme itinérant et sans bagage, les corps s'alignent sur le modèle disponible. Alors c'est teinté comme ça, alors toujours de... Oui, enfin toujours comme ça, non, parce que c'est pas forcément... Si, il y a quelques images. Bah, d'images, de belles images, des fois des images totalement surréalistes. Et il y a aussi de la poésie, enfin je trouve qu'il y a, beaucoup de sensibilité, il y a quelque chose de... Et d'une profonde philosophie. Enfin je trouve que vous sortez de ce bouquin, alors déjà... Enfin, je trouve que c'est pas un truc que vous allez lire en deux, trois mouvements. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de... Faut prendre le temps d'ingurgiter, de recevoir tout ce qu'elle peut dire pour ensuite, ouais, vraiment l'assimiler, je trouve. Parce que, il y a des phrases très profondes et très... Ouais, très...
Parfois dérangeantes, même.
Oui, et puis une construction aussi, ouais, qui vous emmène à... Oui, ça se lit pas comme un...
Ben, c'est pas un roman.
Oui, c'est ça.
C'est
oui,
plutôt de la philo.
J'ai pas envie de dénigrer comme... autre chose, mais
non,
oui,
non, non,
oui,
mais
c'est ça.
Un roman, c'est fait pour être lu de façon linéaire, oui. Machin et tout. Là, on est plus sur de la philosophie. Ouais. Donc, en fait, on lit, et vous savez ce qu'on dit, hein, quand on lit de la philosophie, toutes les trois pages, il faut fermer le livre pour commencer à réfléchir sur les trois pages qu'on vient de lire.
Et ah ben, c'est je le... savais pas, mais je suis pas fait de philo aussi.
Non, mais c'est souvent les gens qui lisent de la philo ou les philosophes qui écrivent, ils disent lisez pas mon livre d'un coup, prenez le temps, c'est-à-dire voilà, et ce qui est pas négatif, hein, c'est juste parce que c'est des idées et que bah parfois, puis quand on est dérangé, on a l'idée qui tourne en tête dans la tête et ça nous empêche de lire la suite, donc autant évacuer le truc, quoi.
C'est exactement ça. Et aussi dans ce bouquin, ce que j'ai apprécié, c'est cette mise en page qui est libre elle aussi, alors pas tout le temps, hein, mais il y a une liberté dans la construction, on va dire, de mise en page. Elle est libre, d'autres diront qu'elle n'est pas standard, mais là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, finalement, ça revient aussi...
briser les normes.
Oui, briser les normes, en fait, parce qu'on est vraiment habitué à avoir, je ne sais pas comment dire, un sens de lecture, une construction sur chaque page, il faut qu'elle soit pleine. Là, on a des espaces vides, on a des mots qui apparaissent sur le côté, complètement à droite, alors que... Ça nous emmène à vraiment à se dire, tiens, en fait, oui, on est vraiment... On est figé, on est quand même construit dans pas mal de choses, de normes en fait, même dans la lecture. Et je trouve que c'était intéressant que même ces petites choses-là, elles viennent te dire « T'es sûr que c'est pas un peu une norme ce que tu fais d'habitude ?»
Mais ça a une sacrée résonance avec les débats de société du moment sur la langue, où on a tout un carteron de réac qui sortent de partout pour nous expliquer que la langue c'est figé, qu'il faut pas faire des points médians, que tout ça, enfin toutes ces, enfin excusez-moi, je vais le dire avec mes mots, mais toutes ces bêtises qu'on peut entendre, parce qu'une langue ça évolue, ça vive, c'est bien quand ça change d'ailleurs, et je trouve marrant que ça vienne de quelqu'un que la société finalement diagnostique comme étant à mettre de côté, oui. Parce qu'en gros pas du tout, qui ne devrait même pas être dans la société. Ouais. Et puis qui en fait, elle vous regarde, elle vous dit, bah, vos normes en fait, oui. Bah, je peux les exploser, j'ai le droit, quoi.
C'est ça.
Donc c'est bien, en fait, parce que du coup, pour moi, j'ai toujours pensé que les grandes évolutions se font par la marginalité. Mmh. Et quelque part, elle est dans une forme de marginalité, mmh. sûrement subie par la société qui la marginalise. Et je suis persuadé personnellement que la marginalité, c'est par là qu'en fait arrivent souvent les choses les plus détonnantes et qui changent vraiment la société.
Parce qu'elle est obligée d'être sur le pas de côté, en fait.
Ouais, ça. Et donc elle nous observe.
Et oui. Non, mais ouais. C'est ça le truc. Alors forcément, hein, le livre fait 130 pages environ, je crois. Je vais pas vous en parler 3 heures, mais parce que j'ai quand même encore envie de dire les mots de Babouyek, encore un tout petit peu, je vous jure. Ça va pas durer trop longtemps. Bah, j'ai envie de vous lire encore deux extraits issus des deux autres textes, hein, qui composent donc Algorithme éponyme. Donc oui, pardon, j'y vais pour le deuxième texte. La norme établie fidélise le reptilien dans des aptitudes sociales. Croix, croix, obéissant à la grenouille qui réhabilite son âme. Rude aventure patriarcale, tordre tous les outils du voyage imaginaire. Livre de la vie ouvert à la première page. Ris de ton envie d'être différent. On dote timidement les ténors du silence. La tête en exergue, rêve dénudé, nerf sans retour, trou devant l'image, pensée falsifiée. En pratique, ritualiser nos notoriétés pour quelqu'un dit « over taré net super lourd » dans la balance sociale vulgarise réellement son entrée dans le corridor familier des VIP pétés de jolis oripeaux rudement ajustés. Difficile pour un poids lourd, nettement libéré de la tare sociale, de se travestir en ventouse, rhésus négatif, pour sucer des bonbons à l'oseille. » Le deuxième extrait.
Mais c'est, enfin, pardon, mais oui. Elle a d'abord le style est génial et je l'ai pas lu, hein, je le dis, voilà. Donc le style est génial et surtout il y a un truc, il y a énormément d'humour sous-jacent.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que
c'est vrai, je l'ai pas dit.
Il y a une forme de d'humour cynique derrière que je trouve, mais totalement délicieux. Mais
oui.
Vraiment. Hein.
Mais oui, elle est drôle. Donc le deuxième extrait. Donc je suis une enfant du ventre de ce monde où la poésie s'enterre vivante, asphyxiée par l'hégémonie culturelle. Je suis une enfant de ce sentier du monde en équilibre au-dessus des ravins ligotés entre le plein et le vide. Je suis une enfant du ravin de ce monde ployé sous les sentiers en déséquilibre entre le vide et le plein. Je suis une enfant en errance dans ce monde peuplé de certitudes soumis à la servitude. Je suis libre dans ma tête et ce souffle qui porte la vie, je l'ai en moi et dans le silence du fond de mon corps, je pousse ce cri « Oiseau de liberté, volé ». Voilà. Alors si ces quelques lignes vous ont plu, si elles vous ont parlé, si elles vous intriguent, je vous invite, mais alors vivement, très 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 vivement, à lire Algorithme éponyme de Babouyek aux éditions Rivage Poche, et évidemment tous ces autres livres. Moi j'ai pas encore tout, enfin j'ai pas encore lu tout le reste évidemment, mais vraiment je vous invite à le faire si ça vous parle, si ça titille votre curiosité ou si tout simplement, en fait, enfin, moi je sais que, enfin, oui, ce que je disais en début, enfin, moi je sais que ces mots, certains de ces mots me touchent, mais énormément. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais quand un texte vous fait ça, bah, ayez la curiosité d'aller chercher encore un petit peu plus loin. Et je vous invite aussi, si au cas où, je sais pas s'il est encore visible, mais il y a un reportage, en fait, qui a été fait avec Babouyek, sur Babouyek, mais pas que. En fait, elle est en discussion avec un metteur en scène, parce que certains de ses textes ont été mis en scène. Je crois d'ailleurs à Avignon, c'est passé, à d'autres endroits. Il y a un film qui s'appelle « Des nouvelles du cosmos ». Et c'est sur Babouyek. On la voit justement aussi manipuler ses cartons. On voit aussi toute cette énergie et tout ce ping-pong, en fait. Enfin, même, je me souviens d'un passage où elle dit, enfin, oui, elle dit quelque chose par l'écrit, elle dit quelque chose, et le metteur en scène, il est ici en lui disant, bon, là, il va me falloir laisser un tout petit peu de temps parce que c'est trop fort ce que tu me dis, quoi. Enfin, il y a vraiment une puissance dans le ressenti, dans l'émotion et dans la philo et tout. Enfin bref, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est pas le but. Mais vraiment, je vous invite à ouvrir des bouquins de Babouyek et voir des mises en scène, peut-être, si vous avez la chance d'en voir, parce que vraiment c'est absolument renversant et enfin ça chamboule beaucoup, je trouve. Donc voilà, Babouyek avec Algorithme éponyme et bien d'autres textes.
Et nous à la causerie qui avons un souci avec toutes ces normes qu'on nous colle toujours, bah ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui arrive à nous démontrer dans un silence bruyant, que les normes, finalement, bah, c'est que des choses qu'on s'impose.
Oui, et puis la norme, ça exclut, en fait. C'est ça, le truc.
Par définition.
Non, mais oui, c'est ça, en fait. La norme, ça exclut. Et ouais. C'est ça, je crois, vraiment le truc... un des trucs à retenir. Enfin bref. Et ben voilà, on va passer à la ZIC avec tout à fait autre chose.
T'as pas vu sur mon corps, maintenant tu craches dessus. Y'a sûrement un problème, je crois que tu m'aimes plus. J'ai cherché tous les soirs ce qui t'avait déplu. J'ai chialé sur mon sort parce que je t'avais déçu. T'as pas vu sur mon corps, maintenant tu craches dessus. T'as longtemps ma valeur à mon cul. Tu déplores au frais de ma féminité déchue. Mais tu te supportes encore quand tout te bave dessus. Toujours trop. Jamais assez d'être trop peu ton passé. Toujours trop, j'étais lassé. J'm'aimais trop peu ton passé. Toujours trop, jamais assez d'être trop peu ton passé. Jamais trop, j'étais assez. J'avais honte de mes nénés, j'avais honte de mes bourrelets. XS à XL, de toute façon tu regardais à côté. J'avais honte de mes pensées, j'avais honte de me détester. Paraît qu'un corps qui porte la vie serait un corps imparfait. À Hawaii ou en Versace, je suis perfecte, la tête au pied. Miroir dit que je suis la plus belle comme toutes mes sœurs d'avant ou d'après. J'avais tout à profiter. Combien de cœurs tu vas briser, combien de corps tu vas user pour combler ta médiocrité.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22 ou presque tous les dimanches de 22h à 23h environ. Et là, on vient de s'écouter un nouveau titre. Le dernier titre en tout cas en date de Thérèse avec le titre Toujours Trop, vous l'aurez compris. Et ben voilà, je vous invite là aussi à écouter Thérèse et à suivre ce qu'elle sort.
Bah ouais.
Et ben on passe pas au bref, ou en tout cas au rendez-vous de la semaine.
Et ben on commence avec le 20 novembre, c'est demain.
C'est tout à fait ça.
C'est ça, demain. Le 20 novembre, 18h, devant la préfecture du Rhône, 8 quai aux Gagneurs, à l'appel de Jamais sans toi. C'est un rassemblement parce que c'est la Journée internationale des droits des enfants. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la métropole du Grand Lyon, il y a des tas d'enfants qui n'ont pas de toit, qui ne sont pas scolarisés et qu'on laisse totalement, on va dire, en déshérence, volontairement, parce qu'on refuse à un moment donné de les prendre dans des structures prévues ou de les scolarisé. Et donc c'est un appel devant la préfecture par Jamais sans toit à partir des 18h. Donc la préfecture, je le redis, c'est 3 rues à 18h. Voilà.
Ou parfois ils sont scolarisés mais doivent dormir dans la voiture.
Oui, ou des fois
avec papa et maman.
Tout à fait. Donc il y a toutes les configurations sont possibles.
C'est exactement ça.
Ce qui d'ailleurs pas admissible dans tous les cas.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Autre rendez-vous toujours le 20 novembre. En fait, c'est la Journée internationale du souvenir trans. En fait, c'est une journée à la mémoire des personnes trans disparues, assassinées ou qui se sont données la mort ou tout ça parce que la société est transphobe. Ne l'oublions pas. Hein. C'est pas la transidentité qui assassine, c'est la transphobie qui tue. Donc c'est lundi 20 novembre 2023. L'idée c'est de se retrouver à 19h, place de la Comédie, donc dans le premier arrondissement de Lyon, comme chaque année, pour la journée du souvenir trans, afin de commémorer les personnes trans assassinées ou suicidées cette année. L'idée c'est que voilà, c'est une prise de parole de différentes assos ou autres, et c'est aussi suivi ensuite d'un, alors ils appellent ça d'un temps de soins communautaires au centre LGBTI de Lyon, qui est rue du Romarin, je crois, si je me plante pas.
Un temps d'écoute et d'entraide, quoi.
Oui, c'est ça. Donc voilà, journée du souvenir trans, 19h, place de la Comédie à Lyon.
Le mardi 21. Il y a une soirée qui est faite par Lyon Info Migration, donc c'est le 21 novembre, et c'est avec la connexion Lyon-Briançon. Donc pour ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup gens ne le savent pas, Briançon c'est une ville de passage pour les personnes qui fuient, hein, les réfugiés qui fuient, voilà. Et on va dire une soirée pour faire un état des lieux des violences à la frontière. Il y aura des témoignages de personnes directement concernées et de témoignages lus, recueillis auprès de ces personnes concernées. Il y aura bien sûr un appel à soutien. Le bar et la cantine sont solidaires, donc autrement dit, quand tu manges et que tu bois, et ben ça rapporte pour aider les migrants. Donc vas-y, va manger et boire. Et il y aura un DJ set. Il y aura aussi une collecte de dons de vêtements, donc des dons pécuniers et des vêtements. Donc hésite pas, si tu as des vêtements à donner, il fait froid, donc il faut donner des vêtements si tu en as. Et voilà, donc du coup ils disent aussi, autre chose qu'on oublie, il faudrait aussi des produits d'hygiène, des crèmes hydratantes, de la vaseline, du baume à lèvres, tout ça. Donc si tu vas sur rebellion.info, tu as l'information et tu auras un lien pour aller chercher tout ce dont ils ont besoin en urgence. Donc ça permet, comme ça, si tu veux aider ou si tu peux aider, de pouvoir amener ce qu'il y a besoin. Voilà.
Okay.
Et donc, je le redis, c'est à l'Amicale du Futur à partir de 18h30. Et l'Amicale du Futur, c'est 31 rue Sébastien Griffe.
Du turfu. De rendez-vous suivant, c'est vendredi 24 novembre à 18h30 à la librairie La Griffe. C'est une rencontre avec Anatole Lucet autour de Gustave Landauer à l'occasion de la parution de son ouvrage Communauté et Révolution chez Gustave Landauer. Alors, comment dire, c'était un agitateur le plus important du mouvement, en tout cas c'était, il était vu comme ça, hein, par la police de l'Empire allemand, comme l'agitateur le plus important du mouvement radical révolutionnaire. Donc Gustave Landauer, hein, qui est né en 1870 et mort en 1919, c'était en fait une figure insaisissable qui déjoue toutes les tentatives de catégorisation. Je trouve ça assez intéressant aussi. Par exemple, il se définissait pas anarchiste, il se méfiait des connotations trop négatives du mot, en lui préférant celui de socialiste. Parce que les socialistes révolutionnaires, en fait, oui.
Bah, à l'origine, c'est des anards.
C'est des anards, en fait. Hein. Donc voilà, donc en fait, il était aussi. Il se définissait aussi comme anti-politique. Et qu'il disait qu'il était impossible d'attendre un pseudo grand soir pour transformer les choses, et qu'il était partisan de certaines vies communautaires en petits cercles, etc., etc. Donc voilà, c'est un livre sur sa vie, en tout cas c'est un essai, cet essai est le premier à présenter à partir de textes et de leur contexte une lecture synthétique et complète de la pensée de Gustave Landauer qui continue d'inspirer la réflexion politique contemporaine. C'est donc vendredi 24 novembre à 18h30 à la librairie La Griffe, qui est toujours rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement.
Voilà, au tout début de la rue.
C'est 5
ou 7.
Selon d'où on vient.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, ça dépend
de
quel côté
hein.
De la rue on est venu, t'as raison. Et donc, samedi 25 novembre 2023, il y a donc une manifestation pour la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est à partir de 14h, place Bellecour. Il faut venir en violet, parce que le violet étant la couleur de cette lutte. À 14h, il y a un happening. Oula, j'arrive jamais à dire ça.
Happening.
Un happening des femmes en blanc par file action et avec des prises de parole, et à 15h c'est le départ de la manifestation. Que dire de plus, c'est donc le collectif Droits des Femmes du Rhône qui appelle, et le collectif c'est très très large, ça va du planning familial à file action, Nous Tout Rhône, la LDH, l'ESCOPA, l'Union Syndicale Solidaire, la CGT, les écologistes, la France Insoumise, et blablabla. Donc voilà, il y a plein de gens, et c'est chaque année. Donc ce qui serait bien, c'est que l'année prochaine il n'y en ait pas.
Ouais,
ça veut dire qu'on a résolu le problème.
Tu as beaucoup d'espoir. Donc c'est samedi 25 novembre à partir de 14h sur la place Bellecour. N'hésitez pas à être nombreuses et nombreux, parce que...
Ouais, et c'est suivi, juste quand même pour le signaler, c'est suivi donc samedi 25 novembre, c'est le collectif Droits des Femmes 69 et Superféministes qui organise un temps d'échange informel et de réflexion entre militants et militantes voilà, sur, à Villeurbanne, sur comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et ce temps, il a lieu donc de 19h à 22h. Et oh bah, il faut s'inscrire, donc l'adresse sera communiquée aux inscrits. Et pour vous inscrire, il faut aller, bah, aller sur Rebellion, vous trouverez l'information. Et sinon, il faut aller sur un Framaform, mais je ne vais pas vous donner tout non. de suite le lien, c'est trop long. Voilà, mais en tout cas, sachez qu'il y a ce temps d'échange aussi.
Ok, et eh ben allez, nous on se donne rendez-vous dimanche prochain, 22h.
Ben non, comment on peut nous joindre?
Ah oui, c'est vrai. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et effectivement, ce qu'on n'a pas fait au début, on va le faire maintenant. Donc évidemment, si vous voulez nous joindre, si vous voulez nous contacter, est-ce que vous êtes une asso, un artiste, il y a de multiples possibilités. Et ben, vous nous écrivez à lacauseriecanu@gmail.com. Évidemment, si vous voulez réagir sur ce que vous avez entendu ce soir ou sur toutes les autres causeries que vous avez pu entendre, écouter, etc., ça se passe sur le blog. C'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou tapez simplement blog Radio Canu La Causerie et vous devriez tomber sur nous. Et dernier truc,
on est sur les podcasts, sur Facebook,
etc., ouais. etc. Donc comme on le disait au début, si vous avez on l'a pas dit, mais tu l'as dit dans ton sujet Fab, ben voilà, si vous avez envie de diffuser des stickers de La Causerie, des stickers de Radio Canu, n'hésitez surtout pas, vous nous écrivez un mail et on fera le possible pour vous faire parvenir ça très rapidement.
Et si vous voulez aussi partager les podcasts et tous les liens, allez-y, mais ça nous aide.
Faites-y. Et ben voilà, maintenant on se
quitte. Maintenant on y va.
Et c'est Clara qui, je crois, nous donne, enfin, je sais même pas, je crois, je suis sûr, qui va nous donner le dernier titre.
Et ben ce sera Niels Farm avec le titre Sweet Little Lie.
Ça c'est parce que t'as bien aimé ton concert il n'y a pas très longtemps.
Oui, c'est ça.
Bon, on y était aussi.
Là aussi, un artiste, si vous avez la chance de le voir en live, c'est absolument époustouflant.
C'est
un bidouilleur de fou et c'est vraiment assez trippant.
Voilà.
Alors, bonne écoute et puis à dimanche prochain.
Allez, des bisous à dimanche prochain.
Ciao, ciao.